Il est 18h15 à Tel Abyrie, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Chers auditeurs, bonsoir et merci de votre fidélité aux émissions diffusées sur 52 radios partenaires dans les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, sur internet à l'adresse www.studiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum est axé sur comment mieux collaborer entre communautés de la zone des trois frontières pour faire face à l'insécurité. Ce n'est un secret pour personne, la région de Tel Abyrie enregistre à ce jour plus de 115 000 personnes déplacées. Suite à la détérioration de la situation sécuritaire, notamment dans la zone des trois frontières, les populations sont sous menaces constantes qui se traduisent par des attaques, des tueries, assassinats ciblés, extorsion de biens de toute nature, violences sur les personnes perpétrées par des groupes non étatiques. Selon OCHA, à la date du 22 août 2022, 163 ménages, dont 29 réfugiés de 1141 personnes, se sont déplacés pour aller à Terra trouver refuge. Avec ce flux de population vers d'autres localités, la communauté haute et les déplacés pourraient être exposés à des potentiels problèmes de cohésion sociale. Aussi, ce forum sera l'occasion pour échanger sur l'importance de la franche collaboration entre toutes les communautés concernées pour mieux combattre l'insécurité dans cette zone. Avec nos invités, nous allons toucher du doigt les impacts de divergences entre communautés sur la vie socio-économique des populations, les avantages du bien vivre ensemble et l'apport des implications des autorités politiques, des autorités coutumières, des leaders religieux et des leaders d'opinion. Pour en parler justement, nous recevons le chef de groupement de Bankilare, honorable El Hadji El Moumine Boula, le maire de Bankilare, Mahmoud El Mahmoud, et un représentant des jeunes en la personne de El Mouner Mohamed. Et moi qui suis à la modération, Moussa Hassan. Donc, je le disais, plusieurs localités de la région de Tel Abyrie sont affectées par une insécurité ambiante dont la durée, la forme et l'intensité varient selon les zones. Dans la zone des trois frontières, ces déplacés viennent par centaines chercher refuge après avoir été sommés de quitter leur village par des hommes armés qui ont aussi volé leur bétail, brûlé leur grenier et arraché tous leurs biens. Je commence par vous d'abord, monsieur le maire. Quelles sont les conséquences socio-économiques de ces déplacements?
Les conséquences socio-économiques de ces déplacements, je crois qu'elles sont connues de tous. Quand une population se déplace et qu'elle laisse derrière elle tout ce qu'elle a, il y a déjà la pauvreté qui s'aggrave.
Il y a aussi le poids administratif qui s'augmente aussi sur la communauté haute. Je viendrai à vous, honorable El Hadji El Moumine Boula. C'est vous que les populations viennent voir en premier dès qu'il y a problème qui concerne leur vie socio-économique. Actuellement, quels sont les problèmes que ces flux-là ça a suscité au sein de votre communauté?
Les problèmes que ça a suscité au sein de ma communauté, c'est divers problèmes. D'abord, le problème d'identité. Parce que tu quittes chez toi, tu vas dans un autre milieu. Tu perds totalement ton identité culturelle. Et le deuxième, c'est que quand tu quittes seul, tu ne quittes pas avec tous tes biens. Le peu qui te reste, parce que aujourd'hui, les gens qui sont en train de se déplacer, ils ont perdu tout. Le seul qui reste, c'est la vie. Maintenant, comment affronter cette vie au niveau du village d'accueil, par exemple au niveau de Terra ou au niveau d'ailleurs, c'est que ça entraîne totalement la pauvreté de ces populations-là. Beaucoup de paramètres tels que l'éducation, tels que la santé, tout un tas de tralala.
Monsieur El Mouner Mohamed, les jeunes sont au centre et un peu partout dans cette affaire. C'est eux que de l'autre côté on utilise et de ce côté, ce sont les jeunes qui sont chargés de défendre. Quel est le chamboulement socio-économique que tout cela a amené au sein de la jeunesse de votre communauté?
Merci à Kalongou pour nous donner l'opportunité de nous prononcer sur une thématique d'actualité parlant de l'insécurité et qui touche du doigt une couche vulnérable d'abord qui est la jeunesse, entre parenthèses une jeunesse désœuvrée, une jeunesse qui n'est pas active, qui est exposée et qui est doublement sollicitée. D'abord par l'extérieur et deuxièmement par ces groupes armés non étatiques qui font des offres attirantes et qui amènent un certain nombre de jeunes qui malheureusement souvent n'ont aucun choix que de répondre présent à l'enrôlement de ce groupe. Donc, comme conséquence, d'abord, cette insécurité vide nos communautés de leur substance en termes de bras valides. Et cette situation entraîne un certain nombre de règlements de comptes à l'interne des communautés, parce que les communautés nomades, comme les autres communautés, sont des communautés aussi qui ont un certain nombre de divergences entre elles et qui finissent malheureusement par se transformer en règlement de compte. Parce que ce que nous constatons avec l'évolution de la dégradation sécuritaire dans notre espace, malheureusement, souvent, ce sont des problèmes internes aux communautés qui sont transportés sous des revendications entre griffes djihadistes ou de ces genres, et qui font en sorte qu'aujourd'hui, on n'a pas une maîtrise parfaite de cette situation sécuritaire qui devient aujourd'hui une préoccupation pour l'État et ses partenaires. Donc vraiment, pour les jeunes, non seulement la criminalité et les trafics de drogue sont en train de s'accentuer, l'éducation est abandonnée, les secteurs de la santé est dégradé, la vie sociale elle-même, elle est menacée de disparition, parce que chaque jour que Dieu fait, nous comptons des tas de morts parmi les jeunes, parmi les jeunes filles. Et voilà ce que les autorités coutumières administratives sont en train de gérer au quotidien.
Nous les avons sollicités, mais malheureusement pour des raisons personnelles, la représentante des femmes de Banki Lare que nous avons invitée à ce forum n'a pas voulu s'exprimer. Aussi, je vous propose l'interview que nous a accordée Madame Fatimatou Walet Mohamedoun, femme leader de Banki Lare, sur la situation actuelle de la femme dans cette localité, pour comprendre un peu eux aussi leurs préoccupations dans cette situation d'insécurité. En tant que femme leader, quels sont les problèmes que rencontrent les femmes actuellement à Banki Lare?
Assalamu alaikum. Aywa tiroden awatene tigrawan ramadar wan Banki Lare.
Les problèmes que rencontrent les femmes dans le département de Banki Lare sont en premier lieu le phénomène d'insécurité. Ce sont les femmes qui en sont les premières victimes parce qu'elles ont en charge leurs enfants, garçons et filles. Leurs maris sont assassinés, leurs enfants enrôlés dans les groupes terroristes. Elles quittent leur village pour se réfugier dans d'autres contrées, obligées de vivre dans un milieu qu'elles ne connaissent pas, sans mari pour les soutenir. Quand les hommes disparaissent, elles s'accrochent pour la survie des enfants. Elles se débrouillent pour assurer leur quotidien et surtout leur éducation, car ces enfants risquent de rencontrer d'autres jeunes qui vont les désorienter et donner des mirages afin de les entraîner dans le cycle du terrorisme. Nous cherchons donc à donner une bonne éducation à nos enfants, mais ce n'est pas sans difficulté. Une femme qui court jour et nuit pour chercher refuge et nourriture pour ses enfants n'aura pas assez de temps ni de quiétude pour bien garder ses enfants sur le droit chemin, encore moins les appuyer à acquérir le savoir occidental ou islamique.
En tant que femme leader, qu'est-ce que vous êtes en train de faire au sein de la communauté pour amener la cohésion sociale afin de lutter contre cette insécurité?
En tant que femme leader,
la solution que je propose, qui peut contribuer au retour de la paix et de la sécurité, est que nous qui vivons cette insécurité et en sommes les victimes devront être les yeux et les oreilles de nos gouvernements dans nos localités. Car c'est nous qui savons ce qui nous préoccupe, nous et nos enfants, et ce qui préoccupe nos voisins aussi. Nous avons commencé à sensibiliser nos communautés et à demander aux jeunes d'abandonner toute pratique favorisant cette insécurité. Nous, les femmes, en tant que mères, sœurs ou filles, nous avons toute une lourde responsabilité. C'est à nous d'attirer l'attention de nos hommes pour qu'ils soient sur le droit chemin et qu'ils évitent la dérive. Nous apprenons les bonnes manières. Par exemple, si ton voisin, ton ami, ton enfant ou ton responsable ne passe pas la nuit à la maison, il faut te renseigner pour savoir ce qui ne va pas, parce que c'est une responsabilité qui t'incombe. C'est ainsi, en se souciant de son prochain, qu'on renforce l'union, la cohésion pour faire face à l'insécurité de nos localités.
Quelles sont vos attentes par rapport à ce que vous faites de la part de l'État et des partenaires pour vous appuyer dans cette œuvre?
En tant que femme leader,
moi, en tant que femme leader et d'autres femmes impactées par l'insécurité, nous avons des activités que nous pratiquons, telles que le jardinage. Nous faisons aussi du commerce et d'autres activités génératrices de revenus, comme l'embauche. À travers ces activités, nous unissons nos forces pour former les autres femmes pour qu'elles soient autonomes, afin de prendre en charge leurs enfants. Ce que nous attendons des ONG, c'est de nous amener des projets qui sont bénéfiques pour les femmes, des projets qui leur permettront d'améliorer leurs conditions de vie et ceux de leurs enfants, de nous trouver des fonds pour le petit commerce, l'embauche de petits ruminants, des moulins, du grillage pour clôturer nos jardins, ainsi que des semences ou encore des machines à coudre. Nous avons besoin de formateurs aux différents travaux pour accompagner ces femmes dans leurs activités. Nous voulons aussi qu'elles soient formées en études islamiques, car je pense que l'islam est la base de tout. Si les femmes connaissent leur religion, elles seront bien guidées. Nous voulons du gouvernement, dont nous saluons les efforts à travers les FDS qui se sacrifient jour et nuit pour nous sécuriser, de redoubler d'efforts pour nous sécuriser encore plus. Car nous, les femmes et les enfants, avons grand besoin de cette sécurité. Nous voulons aussi l'appui du gouvernement pour des réalisations utiles aux femmes.
Monsieur
le maître, quelles sont les difficultés ou les freins que tout cela amène en termes de gestion de la collectivité?
Bon, les difficultés d'une manière générale qu'ils amènent sur la gestion de la collectivité, c'est que l'afflux de la population des déplacés qui abandonnent leur lieu pour aller se réfugier ou se déplacer dans de nouveaux sites d'accueil et parviennent ou bien en tout cas accentuent la pression sur l'administration des collectivités en ce sens que on n'arrive pas à temps à pouvoir gérer leur arrivée d'abord. Et ça c'est premier lieu. En deuxième lieu, le fait aussi d'avoir des partenaires qui vont le prendre en charge, encore souvent, ça traîne et ça crée encore des difficultés de gestion, en tout cas, de leur besoin en eau, et en santé et aussi même à l'éducation à long terme.
Donc, selon vous, il faut peut-être associer eux, leur leader d'opinion, leur chef dans cette gestion?
Oui, il faut associer leur chef dans cette gestion, mais une chose qui n'est pas facile, parce qu'un chef, il est chef quand il est chez lui, mais quand il est déplacé, il ne peut plus répondre vraiment aux besoins de sa population parce qu'il n'est plus dans son terroir.
Et, honorable, je viens à vous. Comment se fait la collaboration entre les différentes couches sociales dans la gestion quotidienne de la cité avec tous ces mouvements?
Avec
tous ces mouvements, les jeunes viennent, ils vont, il y en a qui quittent. Maintenant, comment se fait la collaboration entre les différentes couches de la société?
La collaboration, c'est une collaboration normalement qui doit débuter sur un certain nombre de pratiques qui sous-tendent cette activité-là. De déplacer vers une zone d'accueil. C'est vraiment un problème très sérieux parce que chez nous sommes des Touaregs. Et ce n'est pas facile pour un Touareg d'être déplacé et de s'intégrer dans cette société où il est à l'heure actuelle, au moment de son déplacement. Ce n'est pas facile de s'intégrer. Il faut des mois et des mois pour s'intégrer. Et cela amène les gens à s'enfoncer dans la pauvreté, à s'enfoncer dans la misère et à devenir quelqu'un qui passe de maison en maison pour demander le quotidien, de quoi à vivre. Ça, ce n'est pas une bonne, ce n'est pas bon que les gens qui ont quitté chez eux, ils ont laissé tout ce qu'ils ont et de revenir maintenant, rentrer dans une autre activité qui n'est pas la leur. C'est très mauvais. Ils ne connaissent même pas. Et puis ça les déshonore.
Et monsieur le maire, comment se fait la collaboration avec les services techniques de l'État, santé, éducation, développement rural, pour un peu juguler tous ces problèmes?
Avec la collaboration des services techniques de l'État, des concentrés de l'État, avec les collectivités, c'est fait normalement. C'est parce qu'ils sont là, chacun est chargé d'un secteur bien donné. Et ce secteur-là, souvent, est débordé avec l'afflux de la population déplacée. Ce qui fait que vous n'êtes pas sans savoir que nous gérons des collectivités qui sont en train de commencer à revivre parce que, tout simplement, la situation sécuritaire les a trouvés déjà dans un gouffre. Parce que c'est vraiment des collectivités qui sont en train de chercher les voies et moyens pour évoluer. Mais l'insécurité est venue encore les enfoncer, ce qui fait que au niveau du domaine de l'hydraulique, les gens avaient déjà des difficultés avant même de les déplacer. Au niveau de l'éducation, c'est la même chose. Au niveau de la santé, c'est la même chose. Et qu'est-ce qu'un service technique peut apporter à une population déplacée qui arrive dans un site où il y a déjà, par exemple, un problème de l'eau et que la population là s'ajoute à celle qui est là, qui avait déjà des problèmes? Qu'est-ce que les services techniques peuvent apporter? C'est très difficile, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment les difficultés que nous voyons aujourd'hui que l'État même souvent ne parvient pas à gérer. Parce que souvent, quand ça arrive, on ne peut pas les faire sur le champ. En tout cas, on ne peut pas les solutionner sur le champ. C'est ce qui fait que nous, la population que nous avons à Bankilaré, normalement, quand il y a des difficultés, les gens doivent aller vers leur chef-lieu de la commune. Mais nous voyons souvent certaines de nos populations, quand ils quittent, ils vont à Ayuru. Ayuru, c'est parce que ils vont vers le goudron où ils pensent que les ONG peuvent arriver à travers les voies les plus faciles, les goudrons et autres. Et ils partent aussi à Terra. Ils quittent leur chef-lieu de département qui est Bankilaré pour aller se déplacer vers Terra parce qu'ils pensent que les ONG peuvent arriver jusqu'à Terra parce que la voie est bonne. Donc c'est ce qui fait que, en tout cas, le poids que nous sentons, nous, c'est le vide. C'est-à-dire l'insécurité crée du vide chez nous.
Justement, et dans le domaine de l'école, les écoles sont fermées, les centres de santé sont fermés. Tout cela contribue à la création de ce vide.
Oui, ça contribue à la création de ces vides, mais les gens souvent aussi, ils partent pour chercher des conditions, en tout cas meilleures, de chez eux.
Et honorable, comme je le dis, l'éducation c'est très important, on vient de l'évoquer, les écoles sont fermées, il y a la santé aussi. Des femmes, j'ai eu des témoignages qui disent que souvent, il faut attendre les véhicules de transport pour aller accoucher. Comment vous gérez ça?
C'est un sérieux problème, mais avec le temps, avec la force, avec l'engagement que nous avons, nous arrivons à gérer ça très difficilement. Parce que il faut voir, prendre une femme au CSI de Bankilaré en travail, l'amener à Terra, c'est tout un autre. C'est un problème. Ce n'est même pas les problèmes d'insécurité, mais les problèmes de route.
Voie d'accès,
c'est ça. C'est très difficile. Et c'est pourquoi nous avons souhaité, auprès des autorités compétentes, l'ouverture de l'hôpital de Bankilaré pour soulager ces femmes, pour soulager ces malades qui sont aujourd'hui à la merci de tout. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un malade qu'on va prendre à partir de Bankilaré, l'amener jusqu'à Terra. Ce n'est pas possible. C'est des risques. C'est des risques d'abord pour le pour les malades, pour les occupants du véhicule, tels que l'infirmier et le chauffeur, C'est un risque également pour les véhicules, parce qu'il le risque d'être pris et le risque d'être enlevé. Ça, c'est un phénomène qui est très difficile à gérer, surtout sur 65 km.
Alors, Mouner Mohamed, en tant que jeune, on a évoqué la station de l'éducation. Les écoles sont fermées. D'autres activités ont été carrément arrêtées ou bien interrompues à cause de cette insécurité. Qu'est-ce que vous attendez sur ce domaine?
Oui, c'est sur ce domaine, dans les différents secteurs, notamment l'éducation, la santé, font partie de ce qu'on appelle les droits fondamentaux pour l'accroissement d'un individu. Et ce que nous attendons de l'État ainsi que de ses partenaires, c'est de redoubler les efforts pour pouvoir conserver ces jeunes qui, dans nos États, peuvent être une source, en tout cas une grande richesse pour le pays si les conditions normales sont créées pour les contenir, pour les former, pour pouvoir être le cerveau de demain. Mais ces jeunes aussi, quand ils sont abandonnés, quand ils sont mal formés, et quand ils ne sont pas préparés pour prendre la relève, et pour préparer l'avenir, ils deviennent source d'instabilité et en tout cas arment certains milliers subversifs qui sont en train de constituer la terreur que nous sommes en train de vivre. Donc l'État et ses partenaires doivent redoubler d'efforts. Et j'ai mis vraiment un accent particulier sur les partenaires. Les partenaires, ce que nous attendons dans ce contexte de fragilité et d'insécurité, c'est vraiment d'accompagner les communes, d'accompagner les différentes mairies, d'accompagner les différents chefs de groupement ainsi que les chefs de tribus par un certain nombre d'actions, notamment des activités génératrices de revenus ou des centres de regroupement d'enfants pour pouvoir donner la chance à ces enfants de continuer. Parce que la liberté intellectuelle, c'est un droit universellement reconnu à tous les hommes. Nul part ne doit être privé, nul enfant ne doit être privé du savoir. Et l'État a l'obligation morale d'accompagner les jeunes, quel qu'en soit par ailleurs les villes. L'État ne peut pas se dédouaner pour dire, pour une question d'insécurité, on ne doit pas créer les conditions pour que les enfants partent à l'école. Sinon, ils cessent d'être un État. Et c'est leur droit, il faut qu'ils soient formés. Et à ce titre, les partenaires de développement peuvent jouer un rôle extrêmement important pour créer des centres de regroupement au niveau des centres urbains où il y a moins de risques d'insécurité pour pouvoir donner la chance à ces enfants et à ces filles de continuer à aller à l'école pour préparer la relève.
Monsieur le maire, est-ce que des actions dans ce sens ont été initiées?
Oui, les actions sont en train d'être faites dans ce sens-là parce que l'État au plus haut niveau est en train de mener des actions dans ce sens-là parce que l'État a pris conscience de l'insécurité et l'État a pris conscience aussi qu'au plus haut niveau, que cette insécurité ne peut pas être vaincue par les armes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez vu le forum que nous avons organisé, et où vous avez beaucoup, toutes les différentes couches sociales, en tout cas, se sont retrouvées, en tout cas au niveau de leur représentation, et les gens ont compris une chose, qu'il faut nécessairement mettre de l'eau dans le verre de chacun, et que entre nous, on se parle, et on s'écoute, parce que les acteurs de l'insécurité, et ce que nous appelons les hommes armés, qui nous pensons qu'ils sont à la base, en tout cas, des déplacements massifs de la population aujourd'hui, nous avons compris qu'il faut parler avec eux. Il faut parler avec eux, il faut qu'on les écoute, il faut qu'ils nous écoutent, parce que ces pays-là ne peuvent pas être divisés. Et d'ailleurs, certains d'entre eux déjà ont commencé à comprendre que nous sommes prêts à les écouter et que de l'autre côté aussi, ils pensent qu'ils sont prêts à nous écouter. Ce qui veut dire que l'État est en train de créer des conditions pour que l'école soit reprise. En tout cas, dans le département de Bankilaré, que je connais, l'État est en train de faire beaucoup de choses et les moyens sont en train d'être mis. Et pas seulement dans le domaine militaire, non, mais dans le domaine social, on crée toutes les conditions pour qu'il y ait un dialogue entre nous, administration, et ceux qui sont à la base de cette insécurité-là. Et ça, nous allons nous le permettre de le faire parce que personne ne peut venir nous sécuriser en dehors de nous-mêmes.
Donc, selon vous, il faut ouvrir des négociations franches et honnêtes avec ces groupes armés.
Ça, c'est ma conviction.
Honorable, selon vous, quel pourrait être l'apport de la population affectée, chacun en ce qui le concerne, pour ramener la paix justement dans ce milieu?
La population, c'est elle-même qui est concernée. C'est la population elle-même qui doit s'unir, être un seul et essayer par tous les moyens de prendre en charge parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est nous-mêmes, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est nous, c'est nos enfants, c'est nos frères. Eh bien, avec nos enfants et nos frères, il faut qu'on s'asseye. Il faut qu'on voit réellement qu'est-ce qui ne va pas. Si c'est l'éradication, ok. Si c'est autre chose, ok, nous allons revenir, s'asseoir et trouver les voies et moyens pour juguler cela.
D'accord. Et en tant que jeune, quels sont les appuis que vous pensez que les populations peuvent apporter au retour de la paix?
Oui, et les populations elles-mêmes par rapport au retour de la paix, parce qu'elles sont les plus qui ont intérêt d'ailleurs, c'est d'abord c'est de se parler. Nous sommes des humains, nous sommes des hommes et des femmes, nous avons en nous un certain nombre de limites, nous avons entre nous un certain nombre de contradictions, mais malgré toutes ces contradictions, il faut quand même vivre pour les avoir. Mais quand l'existence elle-même est remise en cause par des menaces sécuritaires, il n'y a rien de plus beau que de s'asseoir et de se parler comme Bankilari est en train de le faire. Et en ce sens, le forum inclusif pour la cohésion sociale à Bankilari doit être un modèle pour toutes les communes qui traversent ce genre de situation. Parce que la complexité de la question sécuritaire, c'est quoi? C'est quand c'est mélangé avec les divergences internes, les contradictions internes, les complicités internes, ça devient complexe. Les forces de défense et de sécurité, quelles qu'en soient leur capacité opérationnelle, quand à l'interne, il n'y a pas un certain nombre d'acteurs qui peuvent collaborer pour partager les informations, ça devient compliqué. Deuxième élément, nous sommes quand même des religieux et l'islam nous recommande la tolérance. Si on ne se pardonne pas, on ne peut pas s'en sortir de cette situation. Et tous les pays qui ont vécu ce genre de situation ont fini par revenir autour de la table des négociations pour se parler comme Bankilari est en train de le faire. Et je pense que dans ce sens, nous pouvons faciliter des choses aux autorités administratives, aux autorités communières, coutumières, mais aussi aux mairies, parce qu'il n'y a pas de développement sans paix. Il faut que la paix revienne, il faut que les gens se parlent, il faut que les gens se pardonnent pour construire quelque chose qui peut, en tout cas, rendre la vie meilleure. Voilà ce que je pense.
Monsieur le maire, il vient de l'évoquer, il faut collaborer avec la mairie, avec les FDS et tout. Qu'est-ce que vous attendez comme appui de la population?
En tant qu'autorité communale, ce que nous attendons de la population, ce n'est pas une collaboration avec les FDS comme on a l'habitude de l'entendre. C'est indexer X et Y pour dire qu'ils participent ou pas, non. Ce que nous attendons de la population, c'est que la population fasse en sorte que les X et Y là qu'on connaît, dont on sait qu'il est associé ou bien il est acteur de cette insécurité-là, ce n'est pas l'indiquer à l'armée. Non. Nous, en tant qu'autorité aujourd'hui, ce que nous attendons de la population, c'est de faire en sorte que la population elle-même fasse en sorte que les X et Y-là qui font partie ou sont complices-là, qu'ils soient conseillés par cette population-là parce que c'est un des leurs. Je crois que c'est la solution la plus rapide pour la résolution, en tout cas, des problèmes que nous vivons. Parce que les militaires, et souvent, généralement, ce que nous pouvons souligner, c'est que les militaires sont toujours considérés comme étant des étrangers. Et quel que soit ce qu'on fera, ils ne pourront jamais avoir l'information réelle et toucher du doigt le responsable. Mais c'est surtout, souvent, c'est des innocents qui sont toujours pris et arrêtés et enfermés. Et cela ne fait qu'aggraver la situation. Du coup, conscience de tous ces petits problèmes-là, en tout cas, qui ne résout pas les problèmes que nous vivons, c'est de faire en sorte que d'impliquer la population elle-même dans la négociation pour que nous arrivions à bout de cette affaire. C'est ça que nous attendons de la population.
Je verrai avec vous. Est-ce qu'on peut considérer que ces déplacés-là sont plus prioritaires que les autochtones?
Bon, ça, on ne peut pas le dire parce que Moi, en tant qu'autorité, ce que je veux dire, le besoin de déplacer n'est pas seulement alimentaire, elle est aussi hydraulique, elle est sanitaire. À ce point de vue, on ne peut pas dire que les déplacés sont prioritaires plus que les autochtones, plus que ceux qui les accueillent. Parce que ceux qui les accueillent généralement vivent encore des situations, parce qu'il faut savoir que l'État et ses partenaires ne peuvent pas prendre en charge tout le monde. Nous sommes dans un pays, en tout cas, que moi je ne qualifie pas de pauvre, parce que nous avons toutes les potentialités d'être riches, mais c'est que nous ne faisons rien. C'est ça qui nous manque, parce que nous avons la terre, il faut l'exploiter. Et cette insécurité-là, aujourd'hui, a fait en sorte que certaines populations, certains habitants, en tout cas de nos communes, n'arrivent pas à cultiver. Et quand tu n'as pas cultivé et que l'autre aussi sait qu'il a fait, ne lui suffisent même pas et que tu te déplaces vers lui. Alors donc, il va falloir que si tu es aidé, qu'il soit aidé lui aussi parce que vous vivez la même situation. Donc c'est pour dire qu'ils doivent être au même pied d'égalité, en tout cas dans les aides, au niveau des aides là, il faut que ça soit, si on aide les déplacés, que les autochtones aussi auprès de qui ils vivent soient aussi aidés au même niveau.
Honorable, je vous pose la même question. Doit-on prioriser plus les déplacés que les autochtones?
Non. On ne peut pas faire la priorisation. C'est la même chose. Les autochtones que vous avez trouvés sur place, même eux, vous les avez trouvés en fin de récoltes. Et peut-être que les récoltes n'ont pas été bonnes. Voyez-vous? Donc, ils vivent la même situation que vous. Et plus vous vous mettez sur eux, plus ils s'enfoncent dans cette même situation-là. Ça s'aggrave. Chez nous, à l'heure actuelle, à Bankilaré, si tu dis que dans tout le Niger, les gens ont produit, chez nous, non. Quand tu abandonnes tes champs, quand tu abandonnes tes biens, tu viens pour te réfugier ailleurs. Est-ce que c'est du bon, ça? Ce n'est pas bon. C'est très mauvais.
Et autre chose, selon vous, en tant que responsable coutumier de cette population, quel serait donc l'appui d'urgence à apporter et aux déplacés et aux autochtones?
Bien. Aujourd'hui, il faut dire que le seul appui qui puisse être, c'est l'État et les partenaires. Et surtout que chez nous, aujourd'hui, les partenaires sont très loin. C'est ça le problème.
Donc, il n'y a pas assez d'organisations, d'ONG ou de projets qui interviennent à Bankilaré actuellement?
Actuellement, c'est difficile. Il y a la peur d'aller à Bankilaré. Les projets ne peuvent pas venir à Bankilaré. Ils ne peuvent pas se hasarder à faire 65 km dans une brousse avec leur véhicule et leur vie même.
Monsieur le maire, selon vous, quelle pourrait être l'aide d'urgence à apporter à ces populations?
L'aide d'urgence à apporter à cette population-là, elle est vraiment diverse, parce que multiforme. Parce que vous voyez, la population de Bankilaré est une population qui a vécu, en tout cas, beaucoup de situations où le développement n'a pas été, en tout cas, je ne sais pas, été développé, en tout cas à ces niveaux. Parce que les premiers problèmes que les gens ont d'abord, ce n'est pas seulement alimentaire, j'ai dit, on a les problèmes de l'hydraulique. Donc, l'hydraulique, là, moi, en tant qu'autorité, nous considérons l'hydraulique comme étant une aide d'urgence qu'on peut faire à l'égard de cette population-là, à la fois déplacée et autochtone. Il y a aussi la santé. Il y a aussi l'alimentaire. Ça, c'est vraiment des aides d'urgence qu'aujourd'hui auxquelles on s'attend, en tout cas du côté des partenaires.
Et en tant que jeune, qu'est-ce que vous pensez qui soit urgent pour vous?
Pour les jeunes, d'abord, pour moi, en termes d'urgence, ceux qui sont scolarisés, il faut penser à créer urgemment des centres de regroupement pour permettre à ces jeunes quand même de reprendre le chemin de l'école. Parce qu'il faut se dire que c'est des générations qui sont sacrifiées pendant pratiquement 5 ans depuis que cette situation s'est dégradée. Le deuxième élément, les jeunes non scolarisés. Pour les contenir, il faut en tout cas, que l'État et ses partenaires mettent en place un certain nombre de mécanismes permettant d'occuper ces jeunes à travers un certain nombre d'activités génératrices de revenus, notamment les jardinages, en tout cas, investir dans les filières porteuses, parce que nous faisons face, au-delà de l'insécurité, à ce qu'on appelle les changements climatiques. Les chefs de groupement viennent d'aborder la question. On cultive, on ne produit pas. Et la population a des difficultés à être résiliente par rapport à tous ces facteurs qui sont là et qui la plongent dans une précarité ambiante. Et surtout pour les jeunes, c'est encore plus grave parce que ces cas, il n'y a rien, ils répondent à l'offre qui leur est faite de l'autre côté. Maintenant, pour les empêcher d'aller, il faut les occuper à travers un certain nombre d'activités génératrices de revenus. Et dans ce sens, les partenaires qui accompagnent les mairies sont en tout cas des partenaires qui peuvent fournir assez d'efforts dans ce sens pour pouvoir contenir ces jeunes.
Honorable, vous vivez dans une zone, comme on l'a dit, de trois frontières, c'est une longue bande, il y a beaucoup de communautés. Rien qu'à Bankilare, on peut trouver par exemple les Tamasek, les Fulfulde, il y a eu quelques Jarma aussi. Comment se fait la cohabitation entre ces gens-là et entre les voisins?
La cohabitation, il y a toujours des petits problèmes dans la cohabitation. Mais aujourd'hui, nous sommes habitués parce qu'on est avec des sonrailles. Et ces sonrailles-là sont nos frères. Nous comprenons que ce sont nos frères. Mais nous sommes avec des peules. Nous comprenons que nous sommes les mêmes avec ces peules-là. Nous sommes des frères. Mais le problème, c'est qu'au niveau de chaque groupe, il doit y avoir une culture d'esprit. Parce que quand tu cohabites avec quelqu'un, c'est très difficile. Surtout que toi, tu as des animaux, lui c'est un cultivateur. Même si par ailleurs, nous on est en même temps éleveur que cultivateur. Donc on fait les deux activités ensemble. Donc il faut trouver un mécanisme pour que ces deux communautés se gèrent. C'est-à-dire qu'il y a longtemps, on parlait du code rural. Et c'est le moment où il faut que le code rural soit une réalité pour son application.
Et monsieur le maire, comment gérez-vous les différentes communautés confrontées à un même problème, mais de cultures différentes?
Bon, la gestion de la communauté dans sa diversité, en tout cas pour nous, elle n'est pas compliquée parce qu'il suffit de mettre chacun à sa place. Ça veut dire quoi? C'est que chacun sache qu'il est frère à l'autre. Oui, parce que les communautés Touareg et Peul qui composent, en tout cas, le département ou la commune de Bankilare sont des communautés pacifiques, c'est-à-dire ils ont vécu ensemble, les parents ont vécu ensemble, les enfants sont ensemble, donc il y a une culture quand même, en tout cas, qui est développée de part et d'autre pour asseoir la fraternité, la cohésion sociale. Ce qui fait que jusque-là, en tout cas, les gens sont toujours restés ensemble et ils se battent aussi pour être ensemble et malgré les défis sécuritaires que nous vivons.
Et maintenant, je vais faire un tour de une seule question pour tout le monde. En commençant par Honorable, quels sont vos souhaits pour le futur?
Mon souhait pour le futur, c'est que la paix soit retrouvée dans les milieux. Que cette atmosphère de djihadisme puisse prendre fin. Pourquoi? Parce que, d'une part, en fait, certains djihadistes, c'est des gens qui sont venus d'ailleurs. Mais c'est que les complices sont avec nous. Ce sont nos enfants, ce sont nos petits frères, c'est nous-mêmes. Dans ces conditions, il faut créer un mécanisme où les gens vont s'asseoir. Même si c'est les djihadistes, il faut qu'on s'asseye avec eux, qu'on sache ce qu'ils veulent pour qu'on leur dise voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on ne peut pas faire. Il faut un dialogue.
Interne d'abord et
avec eux. Interne et externe.
Merci, Excellence. El Mouner Mahmoud, en tant que jeune, quels sont vos souhaits pour l'amélioration de la vie socio-politique et culturelle de cette zone?
Oui, en termes de souhaits, d'abord, c'est la paix. Parce que sans paix, pas d'action de développement, pas de vie. Le deuxième élément en termes de souhaits, la réouverture des écoles. Parce qu'une jeunesse qui n'est pas préparée à affronter le futur ne peut pas être une jeunesse conséquente. Quand une jeunesse n'est pas instruite, son avenir est sacrifié. Le deuxième élément, en termes de souhait, c'est la tolérance mutuelle entre les communautés. Il faut que nos communautés se parlent. Il faut que nos chefs se parlent. Il faut que les leaders d'opinion donnent l'exemple de se pardonner, de se parler et de s'accepter. Le principe de l'inclusion, c'est l'acceptation de l'autre, de la différence, dans ses tares, dans ses limites. Le troisième élément le plus important pour moi, c'est que l'administration soit proche des populations. En zone nomade, c'est l'une de nos grandes difficultés. On a toujours tendance à comprendre que l'administration est là pour nous réprimer. Or, l'administration est là pour nous faciliter l'existence, pour communiquer avec nous, pour nous écouter et prendre en compte nos doléances. Mais malheureusement, il y a cette barrière liée peut-être au fait que nous sommes à plus de 90% analphabètes. Nous fouillons l'administration. Quand l'administration cherche des informations, nous les refusons, nous les gardons pour nous. Donc il faut que quand même ces éléments soient réunis pour que les conditions de vie soient meilleures, à mon avis.
Et vous, monsieur le maire, quels sont vos souhaits pour l'amélioration des conditions de vie de vos administrés?
Mon souhait est vraiment simple. Hein. Comme ils l'ont déjà dit, mon souhait, c'est la paix d'abord. Parce que comme il l'a dit, El Mouné l'a dit, sans paix, il n'y aura pas de développement. Et cette paix-là ne peut nous venir que de ce que nous venons de faire aujourd'hui à Tidabéri. Ce forum-là, ce grand forum-là, où nous avons vu toutes les couches sociales et politiques de Bankilaré, leur crème des crèmes, s'est retrouvée et s'est regroupée. Ils se sont parlé, ils se sont pardonnés. Et de là, nous, en tant qu'autorité, nous voyons déjà la paix à Bankilaré. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la politique, c'est elle qui fait et défait. Quand les gens font la bonne politique, il y aura le développement parce qu'il y aura l'entente. Quand ils font la mauvaise politique, il y aura la désunion. Et dès qu'il y a la désunion, il y aura l'insécurité. Et donc pour nous, cette insécurité-là, nous la lions toujours au fait qu'il y a une grande, il y a eu un certain nombre d'actes que nous avons posés nous-mêmes, qui ne sont pas venus d'ailleurs, que nous avons posés nous-mêmes, qui nous ont plongés dans cette insécurité-là. Parce que quand il n'y a pas de cohésion sociale, il y aura toujours, en tout cas, ces revers-là de l'insécurité qui vont toujours, en tout cas, jaillir de part et d'autre et qui mettront à mal la vie et des cohésions sociales de la population. Mon souhait, c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement, je l'ai dit, où les gens se sont mis la main dans la main et que, au sorti de ce forum-là, que chacun puisse aller à Bankilaré sans escorte. Parce que on peut l'avoir, on peut être dans cette situation-là, parce que nous le sommes déjà. Parce que tout simplement, ceux-là que nous considérons comme étant acteurs de cette insécurité-là, que nous considérons souvent des hommes armés, de leur côté, les informations que nous avons toujours et des informations vérifiées dont nous sommes sûrs, c'est que dès qu'il y a la paix entre nous, ils feront la paix avec tout le monde et aussi. Donc, c'est mon souhait, c'est vraiment sortir de ce forum-là et que chacun de nous puisse rentrer et cultiver ce que nous avons arrêté au gouvernorat de la région de Tillabéri ce matin.
Merci à vous tous d'avoir répondu à notre appel. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir l'honorable El Moumine Boula, qui est le chef du groupement Touareg de Bankilaré. Nous avons Mahamoud El Mahamoud, le maire de Bankilaré, et le représentant des jeunes à la personne d'Al Mouner Mohamed. Merci d'avoir répondu à nos questions et merci donc à nos invités et merci aussi à vous, fidèles auditeurs du programme du studio Kalangou, qui vous parviennent grâce à nos 52 radios partenaires dans les 8 régions que compte le Niger. Merci et au revoir.